Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, The Audio Agency.
Maline Ridal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Heureux comme en danois. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre ?
J'ai eu envie de partager ce modèle du Danemark sur le bonheur. Depuis 40 ans, le Danemark, dans les sondages dans le monde entier, sort comme étant le pays le plus heureux au monde. Et même moi, étant danoise, en ayant grandi au Danemark, je me suis dit que c'est un privilège d'être née dans un pays comme le Danemark, c'est sûr, mais que de là, que ce soit le pays le plus heureux, je trouvais que c'était intéressant. Donc j'ai tout simplement commencé à étudier le sujet, donc le bonheur, le bien-être plutôt, que j'aime bien utiliser ce terme plutôt que le bonheur. Quelle est la base d'un pays qui fonctionne bien? Et donc mon livre donne les 10 raisons essentielles du bonheur ou de bien-être danois.
Et pourtant, de prime abord, on n'a pas l'impression que le bonheur soit chose si évidente au Danemark.
L'image du Danemark, c'est plutôt qu'il fait froid 9 mois dans l'année, la nuit tombe à 15 heures, c'est le pays le plus imposé au monde. Donc à partir de 52 000 euros de revenus, vous payez quasiment 60% d'impôts, la TVA est à 25%, les voitures sont taxées à 170%. J'aime bien rappeler une petite anecdote qui est qu'à Noël, tout le monde s'offre des slips. Et donc, ce n'est pas forcément le cadeau. Donc, tout le monde rêve, mais c'est des cadeaux très... Il y a un côté très terre-à-terre. Mais c'est néanmoins donc, le pays où les gens expriment être le plus heureux au monde.
Alors, c'est les résultats d'un rapport des Nations Unies, c'est ça, qui a mis les Danois comme étant le peuple le plus heureux du monde. De là, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous expliquer un petit peu quelles sont les raisons de ce bonheur ?
Moi, j'en donne 10. Alors, je pense qu'il y a 3 piliers importants. Le premier est la confiance. Au Danemark, il y a une confiance entre citoyens qui est de 78%. C'est extrêmement élevé. C'est même le plus élevé au monde. Pour vous donner une ordre de référence, en Europe, la moyenne est à 25. En France, c'est à peu près à 22. Il y a des pays africains, au Brésil, etc. Vous avez une confiance qui est que à 5%. Cette confiance qui s'exprime dans le quotidien, si vous voulez, d'une manière assez simple, tout simplement, les jeunes mamans laissent leur bébé dans les poussettes devant les restaurants pendant qu'elles déjeunent. Vous allez à l'opéra de Copenhague, vous laissez votre manteau dans une vestiaire non surveillée, tout le monde, il y a des centaines de personnes retrouvent leurs biens. L'été, vous partez à la campagne, il y a des petits stands avec des légumes et des fruits non surveillés, avec un petit pot avec de l'argent, donc vous vous payez et puis vous rendez tout seul la monnaie. Donc c'est une base de sérénité qui fait que les gens ils partent plutôt d'une manière positive, je crois, dans la vie. Et puis cette confiance est encore plus élevée quand il s'agit des institutions et le gouvernement, car il est à 84%.
Est-ce qu'au-delà de la confiance, est-ce qu'il y a d'autres éléments ?
Alors le deuxième pilier, c'est l'éducation nationale. Donc il y a une volonté ou même l'objectif principal de l'éducation nationale au Danemark est de développer la personnalité et la confiance de l'enfant par rapport à son potentiel. Donc il n'y a pas d'hierarchie de matière. Le système scolaire danois ne cherche pas à créer ou former une élite intellectuelle. On part sur le principe qu'une société en harmonie a besoin de tous les talents. Et donc, si dès jeune âge, 7-8 ans, parce que vous n'êtes pas bon en langue ou en maths, on vous dit que vous êtes nul, bah déjà, vous commencez à créer des gens qui vont se sentir inférieurs. Et cette élite intellectuelle, simplement, on a besoin de ces gens-là qui ont des compétences extraordinaire intellectuel, mais ça concerne très peu de gens. Mais une société en harmonie a besoin de tous les talents et on a besoin que tous les gens se sentent valorisés à leur place. Et le fait de valoriser autant le talent manuel, mécanique, sportif, musical, créatif, les entrepreneurs qui ne sont pas forcément bons dans les matières classiques scolaires, ben ça libère un peu les talents, ça libère les gens et ça leur donne une liberté de réellement choisir librement leur place dans la société, sans qu'on les juge et sans qu'on essaye de les forcer dans un rôle qui n'est pas le leur ou dans une voie scolaire où ils vont avoir beaucoup de problèmes et se sentir pas à leur place. Et même Ils ont inventé une école au Danemark vers l'âge de 14-15 ans où il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus, qui s'appelle une post-école en danois, un efterskole. Et c'est des écoles, il y a 155 écoles au Danemark qui sont spécialisées dans le mécanique, le manuel, le sport, la créativité, le fait d'entreprendre dans l'humain. Et là, vous pouvez aller passer une année pour valoriser tous ces autres talents, ce dont la société a besoin, et sortir de cette année en disant que mais moi j'ai une place dans la société et c'est une place importante. Il y a aussi, à côté de ça, qui est lié à cette liberté de vraiment choisir sa vie, c'est une autonomie que l'enfant danois développe assez tôt. Donc vers l'âge de 13 ans, 70% de jeunes danois ont un travail de loisir. C'est quelques heures par semaine, mais suffisamment pour gagner l'argent de poche. Et donc ça veut dire que dès 13 ans, les jeunes danois commencent déjà à prendre une certaine indépendance où on a envie de faire une telle activité. Bah, on peut le faire sans forcément tout le temps demander à nos parents. Et donc, à l'âge des 18 ans, où il s'agit de faire des études supérieures ou autre chose, une formation professionnelle, etc., bah, 75% des jeunes Danois quittent la maison à 18 ans et ils prennent leurs indépendances. Et s'ils veulent faire des études supérieures, ils ont une bourse de 760 euros par mois pour le faire. Et donc, ça veut dire que ni les parents ni la société, d'une certaine manière, va nous imposer un modèle ou une voie. On peut librement choisir ce qu'on a envie de faire parce que, avec l'aide des États et avec peut-être un peu de quelques heures de travail par semaine, vous pouvez réellement et librement choisir de faire un tel et tel métier ou des études, et donc devenir la personne que vous avez envie d'être ou que vous êtes, tout simplement.
Et le troisième pilier ?
Le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle du projet commun. Et c'est quoi le projet commun ? C'est tout simplement l'État-providence. Donc c'est cette solidarité qui n'est pas un système politique ou danois, mais qui est une valeur partagée entre les Danois. Donc vous avez 7 Danois sur 10 qui expriment être très contents de payer les impôts et qui trouvent que l'équilibre entre ce qu'ils payent et le service fourni par l'État est très bien. Et c'est une certaine sens civique, je crois, très élevé, où c'est la responsabilité de tout le monde que ce système marche. Donc ça veut dire aussi que dès lors qu'il y a quelqu'un qui même songe à tricher ou abuser du système, il y a un rejet très 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 fort parce que c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc quand vous vous trouvez dans une période au chômage, vous êtes très bien indemnisé au Danemark, mais il y a aussi une responsabilité individuelle à tous les jours montrer que vous êtes actif dans vos recherches, vous postez sur un site des recherches d'emploi, et vous allez aussi participer à des travaux dans la commune, vous occupez des personnes âgées, ça peut être aussi nettoyer des plages ou des parcs ou d'autres missions pour le bien de l'ensemble.
Alors vous intervenez aujourd'hui pour le printemps de l'optimisme. Qu'est-ce que c'est selon vous être optimiste ?
Je crois qu'être optimiste, c'est, en tout cas la base, c'est de s'aimer ou en tout cas de s'accepter comme on est, d'aimer la vie et de vouloir aller vers l'avenir avec un sentiment de liberté et le possible. De se dire que moi j'aime bien, et je parle aussi dans le livre de ce que j'appelle les rêves réalistes. Je pense que moi je suis plutôt une réaliste optimiste. Ça veut dire être optimiste, c'est pas tout simplement voir tout en rose, mais c'est de se dire je suis libre, tout est possible. C'est moi qui décide. C'est ça l'optimisme pour moi.
Et si vous aviez un conseil à donner aux Français ?
Ben je crois qu'il faut. Je conseille la même chose que je conseille. Après, vous allez me dire que les Danois ils sont plus heureux que les Français. Mais je pense que les Français ils sont plutôt malheureux collectivement et plutôt heureux individuellement. Je pense que cette responsabilité individuelle de se dire ça dépend de moi aussi. Si je veux que la France soit un grand pays de confiance, bah ben ça commence par moi. Donc à moi d'avoir un comportement de quelqu'un à qui on peut faire confiance et à moi de faire confiance aux autres. Donc tous ces changements et tous ces indicateurs ou ces raisons que je donne, moi je vis heureuse comme une Danoise en France. Donc j'amène ces valeurs-là, qui sont des valeurs, et d'ailleurs avant d'être des valeurs danoises, c'est des valeurs humaines. Donc je vis avec ces valeurs en France, et moi ça me réussit très bien. Et je le dis, je le répète, je pense que la France, pour moi en tout cas, a un potentiel de bonheur incroyable. Incroyable, c'est un pays magnifique, il y a une créativité, mais je sens parmi les jeunes qui s'expriment, et puis une passion, et puis je pense que si chaque Français commence à se dire, mais en fait, en gros, ça dépend de moi aussi, on ne peut pas systématiquement dire que c'est la faute du gouvernement, parce qu'on ne va pas y arriver. Donc l'optimisme, c'est de dire que ça dépend de moi aussi, c'est que cette petite différence que je peux faire moi, ben, ça peut faire une grande différence à la fin.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, étant donné que ce n'est pas votre métier premier? Qu'est-ce qui vous a poussé à partager cette notion du bonheur à la danoise?
Ben, vous savez, je pense que moi, j'ai été étonnée par quelque part la simplicité d'une vie équilibrée et heureuse. Et je pense qu'il y a des illusions autour de tout ce qui touche à l'argent, le pouvoir. Et donc, les gens, ils courent énormément pour des choses qui, à l'infini, ne vont pas les rendre heureux. Et donc, j'avais envie d'exposer 10 raisons simples pour expliquer quelle est la base réellement d'une société qui fonctionne bien et tout simplement le partager. Après, c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas du tout écrivain et ce n'est pas mon métier, mais j'avais envie de le partager et je suis très heureuse de l'avoir fait.
Est-ce que c'est un signe que justement, finalement, le bonheur est à la portée de tous et que chacun doit apporter un petit peu sa contribution pour faire changer les choses?
Moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Et puis, c'est comme ça que j'ai construit ma propre vie. C'est que j'ai pris mes valises à 18 ans et je suis partie de mon pays. En plus, c'est le pays du bonheur. Donc, il fallait le faire, hein, de se dire, ben, je quitte tout ça et je le remets en question et je le re-regarde. Et puis, je crée mon chemin à moi. Et puis, j'ai eu plein d'obstacles. C'est pour ça que je parle d'un idéalisme qui est certainement la mienne réaliste, parce que à chaque pas que je fais, j'ai toujours su que j'allais me battre et je me suis battue, mais toujours avec une partie de rêve ou d'optimisme en disant que je vais y arriver.
Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour cette année à venir?
Oh bah écoutez, après c'est certainement des banalités, mais quand on a une bonne santé et que d'une manière générale on vit bien en harmonie, moi j'ai beaucoup travaillé sur ma base de bien-être, donc j'estime qu'une fois qu'on a cette base, on a une capacité après de profiter des moments de bonheur qui se présentent et résister aux épreuves que la vie nous envoie. Donc ça c'est déjà une chance d'avoir cette base-là, et donc je cultive cette base et la pensée positive, plein de projets, et puis tout simplement de partager ces valeurs. Vous savez, c'est un privilège que les gens qui m'écoutent, je trouve que c'est des valeurs avec lesquelles j'ai grandi, qui vivent à l'intérieur de moi, mais qu'il y a des gens qui ont envie de lire ça et de m'écouter, c'est un privilège, donc vous pouvez peut-être me souhaiter ça.
Très bien. Maline Ridal, à très bientôt, j'espère, et rendez-vous le 20 et 21 mars prochain.
Absolument.
Retrouvez les podcasts, toutes les infos du mouvement et les événements du Printemps de l'Optimisme en vous rendant sur le site www.printempsdeloptimisme.com.